Mensagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito bom dia a todos e a todas. Domingo, dia 8 de outubro, passagem de nível na vossa companhia até às 14 horas. Emissão, relembro, com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. E o podcast. Os temas, iremos falar das comunidades portuguesas, o CCP, ir a 6, 26 de novembro, o ensino de português no estrangeiro, quando ele existe, situação dos consulados, tudo isto com o conselheiro das comunidades, Pedro Rúpio, eleito na Bélgica. Fusionner, um dicionário participatif des mots issus de la fusion de deux langues, le français. C'est une langue étrangère régionale, um projeto que foi lançado por Filipe Villas-Boas, que está aqui na nossa companhia. E, mas ele tem tudo, porque podemos dizer que é um artista plurimédias. Teremos explicações de necessariamente um quarto de 20 minutos. Iremos igualmente ao Teatro Les Sables de l'Empereur, um espetáculo do ator e encenador luso-moçambicano Vítor de Oliveira, baseado num livro de Miyakoto, que vai ser apresentado entre os dias 10 e 14 de outubro em Lyon. E depois vai estar aqui na MC 93 de Bobigny, no mês de março, a propósito de Lyon, DAB+, é como que diz Rádio Jeitel, passamos em Lyon, em Lille, sem esquecer Strasbourg e Paris, evidentemente. E iremos depois até a Richebourg, o cemitério português de Richebourg, foi classificado Património Mundial da Humanidade pela Unesco, e depois iremos falar de Aristides de Sousa Mendes, nossos ouvintes sabem de quem se trata, isto a propósito de uma série documental, Vistos para a Vida, que foi feito pela Opto SIC, nem mais nem menos, mas para já vamos até à Bélgica. Pedro Rúpio, muito boa tarde.
Olá, muito boa tarde.
Pedro Rúpio, até que enfim, temos uma data. 26 de novembro de 2023, o governo, é como que diz, o parto foi difícil. Mas enfim, o bebê em princípio vai vir no dia 26 de novembro. Bom, mais vale tarde do que nunca, não é?
Exatamente, vale mais tarde do que nunca. Em primeiro lugar, eu gostava de aproveitar este momento para agradecer toda a importância que a Rádio Alfa deu ao Conselho das Comunidades Portuguesas neste mandato. Esta será provavelmente a minha última intervenção na rádio como conselheiro. Eu já não me vou candidatar às próximas eleições, portanto também queria fazer essa parêntese. Sim, de facto, vamos ter eleições, estão convocadas, é certo, já agora nada pode haver marcha atrás neste processo. Agora resta esperar pelo processo de apresentação de candidaturas, resta ainda algum tempo para na Europa e por todo o mundo os nossos compatriotas organizarem-se, porque obviamente esperamos uma grande participação. É também um momento democrático.
Sim, Pedro Rúpio.
Esperamos muitas candidaturas, também haverá espaço para debate de ideias. E obviamente que esperamos ter dignos representantes das nossas comunidades no próximo Conselho das Comunidades.
Portanto, a entrega das listas de candidatos vai ser entre o dia 27 deste mês de outubro e a data limite é dia 6 de novembro. Entretanto, há um problema bastante importante, eu digo problema porque para mim é um problema, porque trata-se de um voto presencial. Ora, quem é que vai convencer portugueses para fazer 400 quilómetros para votar para este Conselho das Comunidades Portuguesas? Quem é que o vai fazer?
Bem, nós já tínhamos tido a oportunidade de falar disso muitas vezes, no sentido que o Conselho das Comunidades Portuguesas tinha sido informado pela anterior Secretária de Estado que a ideia destas eleições era avançar com o teste piloto de voto eletrónico. Precisamente porque há muitos compatriotas que não moram perto de um consulado, como é óbvio. Bom, isso agora não irá à frente, infelizmente, e temos que fazer com a situação que temos. E a situação que temos é, de facto, como posso dar o exemplo que eu conheço relativamente bem do círculo eleitoral de Paris, que abrange compatriotas que moram, por vezes, muitos compatriotas que moram, por vezes, a várias centenas de quilómetros do consulado, e obviamente que não irão votar. Talvez haja, e sempre há, felizes exceções de pessoas que dão muita importância a essas eleições, mas isso será a exceção, porque a regra é que a abstenção automaticamente será elevada por causa disso.
Mas ao mesmo tempo está aberta a possibilidade de poder abrir assembleias de voto noutros locais para além dos consulados? Isso está na lei.
Creio que isso dependerá dos próprios candidatos também, de quererem abrirem mesas por um determinado contexto, por serem candidatos justamente que não moram perto do consulado, por exemplo, ou por outros motivos, mas isso requer sempre uma organização bastante grande, porque é preciso pessoal para isso, é preciso estarem presentes membros das diferentes candidaturas.
E é preciso ter o material também, isso, porque como todos os cadernos eleitorais agora está tudo digitalizado, portanto, com todos os problemas de confidencialidade que isso supõe e por aí fora. Mas antes de passarmos à questão do ensino da língua portuguesa, chamado EPE, há dois pontos que eu gostava de referir, é que finalmente os conselheiros tinham pedido que o número de eleitos passasse de 80 para 100, só há 90. Portanto, é como que diz o outro, a maçã foi cortada em dois. E algo bastante importante é que as listas têm que ser compostas 50% por género. É como quem diz, 50% mulheres, 50% homens. Isso é um avanço para si?
Bem, a minha posição é a posição do Conselho das Comunidades Portuguesas. Portanto, tenho de dizer que nós preferíamos que houvesse uma maior liberdade nesse processo, precisamente porque nas precedentes eleições houve sempre dificuldades em encontrar mulheres candidatas. Portanto, bem, agora a situação está como está e espero que seja uma forma de motivar mais mulheres a participar. A título individual, eu espero que seja mesmo o caso. Temos muitas mulheres extremamente importantes no movimento associativo, que fazem um papel extraordinário no movimento associativo. Sem elas, dificilmente teríamos aqui na Bélgica muitas associações ainda em fase de funcionamento e, portanto, resta agora fazer esse passo também de estarem mais ativas noutro tipo de processo, nomeadamente aqui com o Conselho das Comunidades Portuguesas.
Ora, o ensino de português no estrangeiro, faço uma pergunta, é provocatória, faço o advogado do diabo. Será que finalmente agora fala-se muito de digitalização? É, portanto, via internet e por aí fora, será que finalmente a digitalização do ensino de português no estrangeiro é um paliativo à falta de professores?
Pois, isso é o grande receio. Existe sempre o discurso oficial e depois o que é feito na prática e as intenções que estão por trás disso. Eu tenho sempre alarmado para a necessidade de haver mais professores, porque são os professores que têm as melhores condições para ensinar aos nossos filhos a língua e a cultura portuguesas. Eu já pude constatar que existem vários estudos sobre a matéria e até alguns países como a Suécia que recuaram na digitalização do ensino por se aperceberem que, além de não ser positivo, também contribui para um retrocesso da aprendizagem das crianças das diferentes matérias. E, portanto, eu não vejo a digitalização do ensino, quer seja do ensino de português, como de qualquer matéria relativa à educação, como algo de uma solução mágica que irá melhorar, portanto, esta questão. Por isso, o Sr. Secretário de Estado fala de uma complementarização, tudo bem, mas vejo-a com alguns receios, por esses dois pontos que eu acabo de dizer.
Ora, tanto mais que o Secretário de Estado, ou a Secretaria de Estado, anuncia que no final de toda esta operação vão entregar 22.747 equipamentos a alunos e a 450 docentes. Ora, isto, comparando com o número de portugueses que aprendem a língua de Camões no estrangeiro, ou não sei quantos é que ainda terão professores. Porque, finalmente, com essa história do digital, os alunos passam de atores para espectadores, não? Estão impassíveis a olhar para aquilo porque não há interação nenhuma entre eles e os professores.
Sim, para já há os alunos que continuam a ter aulas presenciais e que vão possuir essa tablet como complemento das aulas que vão ter, e depois há aqueles também que vão optar pelo ensino digital por não terem aulas perto de casa e, portanto, essa será a única alternativa para eles, e aí devo dizer que obviamente não é de todo o método de ensino mais adaptado, o mais adequado que possa haver, e como disse, já referi as reticências que eu tenho relativamente a essa metodologia.
Ora, relativamente aos consulados, sabemos que há falta de pessoal aqui em Paris, mas penso que a situação na Bélgica qual é? Porque o secretário de Estado, ainda tivemos a ocasião de o entrevistar há duas semanas, e ele nos disse que agora já não é necessária a autorização do Ministério das Finanças para fazer concursos e abrir postos. Qual é a situação aí na Bélgica? Porque aqui, bom, abrem-se postos à medida em que as pessoas vão para a reforma. Qual é a situação aí?
Bem, na realidade aqui temos um contexto particular, que é a visita do Sr. Presidente da República à Bélgica daqui a sensivelmente duas semanas. Portanto, eu sei que os funcionários do consulado estão extremamente ocupados com essa visita, e isso teve algum impacto no atendimento das pessoas, ou talvez nem tanto, mas eu sei que o foco está dado nessa visita, que é importante, obviamente, para os serviços consulares. De forma geral, diria que nada mudou radicalmente. Temos sempre a mesma situação. Ainda ontem, não foi mais tarde do que ontem, uma pessoa contactou-me dizendo que o pai não consegue marcação no consulado há um mês, e, portanto, é difícil, sendo assim, é difícil termos uma boa imagem do consulado, um bom relacionamento com o consulado, o Estado português, a figura do governo também, quando esse tipo de situações continua a existir.
E, no entanto, os emolumentos, que eu falo de emolumentos, o preço, por exemplo, do passaporte é muito, muito superior ao preço do passaporte em Portugal, por exemplo. Pagamos mais caro aqui.
Desculpe, não entendi.
Estava eu a dizer que o passaporte tirado na imigração custa muito mais caro do que em Portugal, de maneira que, em princípio, deveríamos ter um serviço melhor, não?
Pois há também essa questão dos emolumentos consulares, que se representam várias dezenas de milhões, não sei se chega a ser 30 ou 40 milhões ou mais de emolumentos consulares, e esse dinheiro também poderia servir para essa questão que muito tanto se fala orçamental. Mas bom, de facto podíamos estar à espera de um serviço público que esteja à altura das expectativas. Também repetimos várias vezes a necessidade de aí sim, de optar como alternativa pelo digital quando isso é possível, e foi lançado agora recentemente o consulado virtual, mas aí também devo confessar que desde o 10 de junho, que foi o lançamento oficial do consulado virtual, que sei que há lacunas, há dificuldades, há pessoas que, por exemplo, fizeram o registro de nascimento online da criança diretamente no momento, ao pouco tempo depois do lançamento dessa plataforma, e até hoje, e já estamos no mês de outubro, não tiveram qualquer tipo de feedback em relação ao pedido que fizeram. Portanto, aí também certamente que haverá coisas para melhorar.
Bom, tudo, não digo que tudo continua por fazer, mas Pedro Roupio, a maneira que vai deixar o Conselho das Comunidades Portuguesas, aí na Bélgica já se está a preparar listas, candidatas?
Não tenho conhecimento de candidaturas que estejam a ser preparadas neste momento. Ainda resta algum tempo, penso que as candidaturas só deverão ser apresentadas a partir do mês de outubro, do fim do mês de outubro deste mês. Portanto, ainda resta tempo às pessoas para se organizarem, mas eu pessoalmente desconheço, por enquanto desconheço.
Bom, aqui em França não ouvi nada também, de maneira que, bom, vamos lá ver se isto vai interessar pessoas, porque muita gente dizia o CCP é um mal necessário, mas enfim, é outra história. Pedro Roupio, agradeço toda a colaboração que nos tem dado há anos a esta parte, porque
aumentado
também presidente do Conselho Regional da Europa do CCP, mas contamos consigo para falar da situação da imigração, porque conheço bem essa situação. Pedro Roupio, muito obrigado, um grande abraço.
Foi um prazer e espero que teremos mais oportunidades, quem sabe.
Já, com prazer, muito obrigado.
Um abraço, um abraço, bom trabalho. Adeus.
E dentro aos tantos vamos falar de um dicionário muito, muito especial. Mas por isso talvez a música que aí vem pode servir de introdução. Não sei se vão encontrar só uma lógica ou não, mas enfim, a música aí está.
Thank you.
E voltamos aqui ao direto para aqueles que lhe possam interessar. Esta faz parte da banda musical do filme Deliverance, ao banjo, mas enfim, bom, partimos para o outro lado, em caso de dizer, do Atlântico, porque é um instrumento atualmente tradicional nos Estados Unidos, mas vamos voltar aqui. Aqui é uma maneira de falar, porque finalmente vamos andar a passear e o que vale é que as línguas não têm passaporte. Bom, não vou lá. Filipe Villas Boas, bonjour et merci d'être avec nous dans le studio.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, le fusionnaire, bon, est un dictionnaire focalisé sur la fusion des langues, conçu par l'artiste Filipe Villas Boas, un artiste, oui, bon, il fait plein de choses, puisque finalement, c'est bon, plurimédias. Média, mais on en parlera de ça plus tard. Alors, ce projet a pour but d'archiver l'inventivité du langage et de valoriser la poésie et la joie de la multiculturalité. Alors, mais il n'y a pas que la langue française, il y a les langues étrangères et aussi les langues régionales. Alors, Filipe, si on peut revenir quelques années en arrière, apparemment cette idée, bon, elle a surgi dans votre tête parce que c'est grâce à un vécu. Et ce vécu passe par la Corse et par votre maman.
Oui, tout à fait, oui. Ben, en fait, c'est un projet qui... c'est peut-être mon premier projet même artistique, je dirais, dans le sens où c'est un projet qui m'est venu en tête à cause de ma mère, principalement, ma mère et mon père. On est arrivé en Corse au début des années 80. Et pour mes parents, ils ont appris la langue française en même temps que ma sœur et moi, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait tout le temps cette confrontation entre la langue qui était parlée à la maison, la langue apprise à l'école. Ma mère nous autorisait exceptionnellement de la corriger à l'oral sur toutes ces erreurs en français, justement parce qu'elle était dans une démarche d'apprentissage constant comme ça. Et puis surtout, elle faisait des elle créait de la langue. Alors c'était des opportunités, des erreurs, de fatigue peut-être aussi. Ça arrive un peu dans tout un tas de contextes. Mais en tout cas, elle créait des mots qui étaient à cheval entre les deux. Elle réalisait, elle créait du frantugais, comme on dit aujourd'hui. Et bien sûr, nous, ça nous a explosé de rire parce que c'était des barbaries, c'était des incongruités langagières. Et au même temps, en fait, c'était tellement tellement drôle que petit, je m'étais dit un jour, je ferai j'archiverai ces créations. Et puis en grandissant, je me suis surtout dit que je me suis déjà aperçu que c'était quelque chose de commun un peu à toute la communauté franco-portugaise, qui d'ailleurs aujourd'hui s'étend pas seulement aux lusophones sur le territoire français, mais aussi aux francophones sur les territoires lusophones. Je pense à tous les gens qui ont déménagé à Lisbonne. Je pense à tous les gens, à tous les Français qui vivent à Rio ou à Sao Paulo. Et au-delà de ça, ça concerne tous les gens qui ont une double culture, que ce soit européenne ou non. Et en fait, comme vous l'avez dit, les langues n'ont pas de passeport. Et elles évoluent de cette manière-là, c'est-à-dire en mutant, en se coagulant, en se nourrissant les unes des autres. Et je trouvais que cette joie-là de créer de la langue, elle atterrit, in fine ou pas, dans un dictionnaire 10 ans après. Il y a un mot qui est casserole, qui était du pur frontugais de souche, j'ai envie de dire, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, voilà, c'est un mot qui a intégré le dictionnaire portugais de manière officielle. Et la langue française, elle se défend beaucoup de ces invasions entre guillemets.
Sauf la langue anglaise.
Parce que justement, il y a une commission à la direction générale de la langue française et de la francophonie, tout ça, qui crée de la langue à chaque fois qu'elle se sent menacée. Et ce qui est drôle, c'est de constater, par exemple, sur le verbe spoiler, qui est du franglais. On a réuni la commission pour aller chercher un mot bien français, et on a donc créé « divulgâcher ». Et ce qui est hyper risible dans cette création, c'est qu'en fait « spoiler » vient d'un mot français, et « spoilier » qui est de « spolier », en fait. Et du coup, en croyant que le mot était
un anglicisme
pur, Si on regarde étymologiquement, en fait, c'est un mot français, c'est un mot de racine latine qui est parti en Angleterre comme énormément de mots anglais et qui nous est revenu et qu'on a lu comme une invasion britannique, alors que pas du tout.
Alors, il y a d'ailleurs par rapport au français, chaque fois qu'il y a un nouveau truc technologique ou autre, il y a que les Québécois qui le traduisent en français. D'ailleurs, le dictionnaire québécois, c'est une petite merveille. Mais revenons justement à ces fusionnaires, parce que finalement, qu'on veuille ou pas, que les Français le veulent ou pas, et que l'Académie française le veuille ou pas, il y a eu une polémisation entre les langues dans notre territoire, finalement.
Bah oui, moi c'est ça que je trouve absolument magnifique, c'est que quand on a une double culture ou une triple culture, bah en fait on mélange nos racines et on les cultive de la même manière et finalement hors antenne tout à l'heure, vous me disiez que quand vous parliez français ou portugais, votre cerveau est pas connecté de la même façon. Bah justement, en fait, la rencontre de deux langues, c'est le moment où ces deux cerveaux se croisent et trouvent des opportunités de ne faire qu'un. Et donc, je trouve ça magnifique. Et ça se produit bien sûr en franco-portugais. Et ça se produit dans des tas de langues depuis que j'ai lancé le site il y a un petit mois. Je dois dire d'ailleurs grâce à mon petit frère Christophe Carvalho Villas-Boas, puisque lui s'appelle Carvalho Villas-Boas, il est né en Corse, donc c'est le seul à être de double nationalité. Avec ma sœur, on est né au Portugal uniquement, donc on s'appelle De Afonseca Villas-Boas. Je le précise parce que lui, il conserve l'entièreté de ses noms portugais, alors qu'avec ma sœur, on a eu tendance à choisir un seul nom pour simplifier, pour s'adapter un petit peu
pour le régime civil,
à l'administration française. Et c'est un petit aparté, mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que les Français reviennent à la mode portugaise et réadoptent les deux noms des parents.
Du père et de la mère.
C'est assez rigolo en termes d'histoire, alors qu'on nous a tellement embêtés dans l'administration sur la longueur de nos noms. Et pour revenir à la création de langue, bah oui, c'est... je trouve une poésie et une création que tout le monde en fait produit et c'est ça que j'ai envie de valoriser. J'ai envie de valoriser le fait qu'on est tous en train de créer de la langue tout le temps et que ces langues officielles, bien sûr, on les fige parce qu'il faut bien les apprendre. C'était d'ailleurs en partie le sujet de l'intervenant précédent. Pourquoi on n'archiverait pas cette création collective en franc-tugais, en fralmand? J'ai eu des contributions en franco-japonais, en franco-occitan, franco-catalan. Enfin, je trouve que c'est un peu un travail de mémoire que j'ai envie de faire et que je peux pas faire tout seul. Moi, je peux le faire sur la partie.
Donc, d'où votre appel aux contributions, c'est ça?
Exactement. D'où mon appel. Alors, bien sûr, d'abord à cette communauté franco-portugaise dont je fais partie finalement. Naturellement, et puis à toutes les personnes qui ont une double culture et qui se reconnaissent un petit peu dans cette créativité là d'avoir entendu leurs parents générer des mots ou inventer des expressions. Moi, je trouve ça vraiment tellement drôle et en même temps tellement tellement représentatif d'une double culture, voilà, qu'on assume, qu'on est heureux de posséder, tout simplement.
Et d'ailleurs, les Français, maintenant, ils disent « Spice de Blata », ça c'est connu, « Bacalao ». Bon, donc c'est pour dire... Alors, Philippe Villejoux, je vous ai eu un parcours, bon... Il faut dire que vous avez travaillé pendant 7 ans de la publicité.
Exactement.
Donc vous étiez complètement, je dis pas ailleurs, mais presque, c'était un monde différent de votre monde aujourd'hui.
Eh ben en fait, l'histoire c'est que moi j'ai toujours été dans les mots, dans l'écriture. Dès l'adolescence, en fait, j'écrivais beaucoup de poésie, beaucoup de prose. Et petit à petit, en fait, il y a une prof de français d'ailleurs, on revient à la langue, qui nous a fait un cours sur les figures de style et la rhétorique, et qui nous a dit, les petits, la semaine prochaine, vous venez avec des pages de publicité, déchirées, des magazines, on va commencer le cours de rhétorique par un cours finalement d'analyse de figures de style, pour comprendre comment le langage est utilisé en publicité, Et en fait, moi qui venais de l'écriture, mais qui était une écriture, d'auteur, de création, même si je n'avais que 13 ou 14 ans, je me suis dit, ah, peut-être là, voilà un moyen de commencer à avancer dans la vie professionnelle. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont absolument pas dit ce que je devais faire. Ils m'ont juste dit, fiston, tu fais ce que tu veux. Tu te débrouilles juste pour que ça tienne debout. Et donc, ma manière de faire tenir les choses au début, ça a été de me dire, ben, vu que je sais écrire, je vais commencer à écrire pour les autres. Et c'est ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années. J'ai travaillé dans plein d'agences différentes, du design au web, en passant par la publicité. J'ai même fini par créer mon propre studio de design d'interaction. Mais en ayant toujours une activité artistique à côté. Et en fait, avec les années, je me suis dit, mais je peux pas ne pas tenter de faire exactement ce que j'ai envie de faire, qui est mon projet initial, qui est de vivre de ma plume, entre guillemets. Et en fait, cette plume s'est transformée aussi parce que l'ordinateur est arrivé entre temps. Du coup, je me suis intéressé à cette connectivité-là, à ses ressorts économiques, politiques, à comment ça venait transformer la société, la manière d'apprendre, la manière de partager du savoir, la manière de travailler, la manière de s'aimer, etc., etc. Et donc c'est un peu le cœur de mon travail aujourd'hui, à la fois sur les aspects éthiques, les aspects esthétiques aussi du numérique. Quelle poésie on peut créer dans ce monde hyper connecté, comment on peut transformer ça, comment on peut proposer d'autres choses aussi que des usages, je dirais, uniquement commerciaux des algorithmes. Les algorithmes sont des outils, il faut qu'on sache s'en saisir, qu'on sache proposer des choses qui nous intéressent et dans lesquelles on a envie de vivre, se projeter, quoi, pas uniquement un monde marchand.
Alors, je pense qu'au départ, vous n'avez pas de formation là-dessus. Vous êtes ce qu'on appelle autodidacte. Mais, alors, j'aimerais bien expliquer deux choses. Alors, joli, hein. C'est pratique comme ça. Il vit et travaille Evry, artiste conceptuel, jouant la porosité entre les mondes IRL et URL. Alors, je pense que la plupart de nos auditeurs, je m'excuse, ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Non. IRL et URL.
Ce sont des abréviations. Oui. IRL, c'est de l'anglais, c'est in real life, dans la vraie vie. Donc, c'est le mix entre la vraie vie et URL, donc l'URL, l'adresse web. C'est un jeu de mots, si je puis dire, entre les deux. Donc c'est le mix entre le monde numérique et le monde réel. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de questions tournent autour de cette combinaison. Encore une fois, c'était aussi le sujet de l'apprentissage de la langue il y a 5 minutes. Est-ce que le numérique peut être un outil dans ce cadre-là, quand on a moins de professeurs qui sont disponibles ou qui souhaitent enseigner? Bon, bien entendu que c'est un outil, bien entendu qu'il faut utiliser au maximum ce muscle numérique pour utiliser un professeur où qu'il soit en Europe, de manière à même connecter tous ces élèves peut-être qui souhaitent apprendre le portugais ou qui se trouvent d'ailleurs sur que ce soit en France ou ailleurs. Ce serait intéressant de connecter ces étudiants-là en portugais. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une opportunité de dingue qu'on n'a pas encore vraiment su saisir. Et c'est le cas dans l'éducation et c'est le cas dans beaucoup de domaines.
Alors, je pense que dans votre travail, vous avez analysé, je pense que vous êtes un petit peu critique, parce qu'on parle d'accès et excès du numérique. Et c'est vrai que ça permet tout et n'importe quoi.
Bien entendu. En fait, c'est la question. Alors les intellos appellent ça l'instrumentalité de la technique, mais ça veut dire qu'est-ce qu'on fait de cette technologie? Est-ce qu'on se construit une cabane avec le marteau ou est-ce qu'on brise des crânes? Je dirais que dans chaque outil, il y a quand même une propension à faire le bien ou le mal, si on convoque la morale. Mais dans le cas du numérique, c'est quand même, il faut se le rappeler, le web, etc., c'est quand même une technologie qui nous vient de l'armée, c'est une technologie, disons, logistique, qui est là pour gérer au mieux la transmission d'informations et le contrôle des troupes, quoi, si je puis dire. Et donc, l'économie, la vie, si je puis dire, s'est saisie de cet outil, voilà, qui est passé dans le domaine public. Maintenant, pour en faire énormément de choses, et notre économie aujourd'hui en dépend beaucoup. Mais moi, je parle de l'accès, parce que vraiment, je je suis très heureux de cette bibliothèque ouverte qui est devenue le web. Mais je constate aussi que la pyramide qu'on pensait réduire en horizontalisant l'accès aux connaissances, finalement, cette pyramide, elle s'est agrandie. Elle est de plus en plus pointue. C'est-à-dire que les gens qui ont entre les mains le pouvoir, le contrôle de ces plateformes, en fait, ils sont encore moins nombreux que ce que n'étaient les grandes industries du 20e.
Mais Philippe, il y a un problème de, il y a pas un problème d'éthique au milieu de tout ça aussi. Ça soulève tout un tas de problèmes, ça, parce que la liberté individuelle, tout un tas de choses, bon, qu'on puisse être manipulé, bon, on a vu ça concerne les élections aux États-Unis, même ici, comment on peut manipuler l'opinion publique.
Bien sûr.
Il y a un problème d'éthique. Alors, vous avez une démarche artistique et critique.
Ouais.
Au milieu de tout ça, comment on fait?
Moi, je trouve que, moi, j'essaie de comprendre où on en est. Donald Trump, effectivement, c'est le président qui a battu le record d'utilisation de publicité micro-targetée, c'est-à-dire il a généré de la publicité algorithmiquement pour faire basculer le petit 1% qui le fait passer sur le siège à la Maison Blanche. Cette question-là de l'influence politique des algorithmes, elle est symbolique parce que elle dit à quel point finalement, en individualisant à la fois la connaissance des gens via les traces qu'ils laissent en ligne, et en comprenant que vous, par exemple, la publicité sur laquelle vous allez cliquer, c'est plutôt une publicité textuelle ou avec une image en gros plan, ou plutôt quelque chose de factuel, avec de la data visualisation ou des choses comme ça. En fait, ça, on le sait précisément pour chacun d'entre nous. Et donc, on sait précisément comment influencer l'esprit, si je puis dire, de chacun. Donc ça c'est un vrai danger, c'est un vrai danger démocratique. Et il y a eu l'affaire Cambridge Analytica qui nous a un peu réveillé sur le sujet. Il y a Edward Snowden qui avait commencé à nous ouvrir les yeux sur la question. Et c'est vrai que les politiques et les citoyens sont pas extrêmement réveillés sur la question, bien qu'ils en soient plus ou moins conscients. Et c'est ça qui m'intéresse dans la question numérique, c'est que Bernard Stiegler, qui est un philosophe français, parlait de pharmacone. Il disait, c'est autant le médicament que le poison. Et donc tout ça pour dire que en pharmacie, ce qui fait soin, c'est la dose. Si vous prenez une dose un peu trop importante d'aspirine, demandez à Marie Hiro, ça va mal se passer en fait. Donc la question de dose, la question de la limite, je trouve est une question et un thème super intéressant pour notre siècle qui a déjà bien débuté.
Philippe, vous avez parlé de santé. Il y a tout un travail que vous avez fait avec les médecins, art et santé mentale. Pouvez-vous nous donner un petit peu de détails là-dessus? Parce que, donc, c'était quoi exactement?
Oui, alors ça c'est un projet que j'ai développé dans le cadre d'une association que j'ai développée à Ivry, qui était initialement... concentré sur l'idée d'aménager des activités culturelles, voilà, dans mon quartier, au pied des immeubles, des HLM. Ensuite, on allait dans les prisons, etc., etc. On faisait tout un tas d'ateliers. Moi, j'invitais mes amis, en fait, les artistes, les cinéastes, les designers, les entrepreneurs, à venir partager ce qu'ils faisaient, avec toujours l'idée de faire ça en deux parties. Comment ils sont arrivés là? Moi, je trouve que c'est le plus intéressant. Le parcours des gens, parce qu'on voit que c'est toujours du billard à trois bandes, et jamais une porte d'entrée pour aller dans la même maison. Et puis après, une partie initiation. Et ça, donc, on l'a fait pendant 2-3 ans. Et puis, petit à petit, on est parti développer un atelier de réalité virtuelle qu'on avait fait notamment en prison avec des amis d'un studio qui s'appelle Notoriou, qui avait développé des visites virtuelles de musées ou de lieux, de friches industrielles dans lesquelles il y a de l'art aussi. Et un jour, en discutant avec un ami, Romain Sicot, qui est psychiatre, à Paris, il me dit, on fait de la visite de musée de temps en temps avec nos patients dans un service d'addictologie. Ce sont des patients en général qui ont eu des problèmes d'alcool et qui ont perdu tout un tas de fonctions cognitives, spatialisation, mémoire, etc. Et il me dit, donc, on fait de la visite culturelle, on en fait un outil de, voilà, d'entraînement cognitif. Quelles œuvres on a visitées, etc., etc. Mais bien entendu, le public en soi, les patients ayant des difficultés de spatialisation, c'est déjà un challenge de ramener tous les patients dans le musée, etc. Je lui dis. Et donc je lui dis, mais peut-être qu'on pourrait faire un transfuge de l'atelier qu'on fait en VR, notamment pour les prisonniers.
C'est quoi VR, pardon ?
Réalité virtuelle.
Non, d'accord, merci.
Les casques de réalité virtuelle. Peut-être qu'on pourrait se servir de cet outil-là. Pour faire de l'entraînement cognitif tous les jours avec les patients en hôpital. Et donc maintenant, ça fait 3 ans qu'on mène des études avec des psychiatres, des infirmiers, sur la question de remédiation cognitive, d'entraînement cognitif, via la visite d'espaces virtuels. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 15 jours, le Musée des Arts et Métiers à Paris a accepté qu'on vienne scanner une partie du musée pour qu'on puisse continuer notre étude et faire... une étude comparative entre les patients qu'on entraîne uniquement sur le virtuel versus ceux qu'on emmène dans le réel et ceux qui font les deux. Qu'est-ce qu'on ressort comme indicateur de ça? Et donc c'est pour moi en fait c'est tout aussi intéressant que le reste dans le sens où je le fais pas avec ma casquette d'artiste, je le fais avec ma casquette de président d'association. Mais ça m'intéresse tout autant parce que c'est qu'est-ce qu'on fait de ces outils en fait? On parle de réalité virtuelle, on parle d'enfermement, on parle de du fait de se mettre un casque sur les yeux et de se couper du monde. Oui, oui, d'accord. Concrètement, effectivement, faut se mettre un casque pour regarder. Mais en fait, c'est aussi des opportunités pour créer du lien d'abord dans le cerveau de ces gens et puis en fait pour trouver des territoires, des nouveaux territoires à explorer en fait. On est là, on a parlé des explorateurs portugais tout à l'heure. oui. Moi, je suis un explorateur du numérique, je dirais.
Alors, j'ai vu au début...
Pas du tout, très humblement.
Vous êtes un artiste et multimédia. Revenons à un projet, justement, vous pas parler de liens et tout ça. L'installation interactive à l'église de Saint-Eustache. Bon, ça date déjà, c'était en 2014. Mais enfin, c'est très important parce que finalement, le public pouvait... agir et réagir par rapport à ça. Vous pouvez nous expliquer un petit peu quel était l'objectif.
C'était 2014, c'était la nuit blanche à Paris, dans l'église Saint-Eustache. Et en fait, alors c'est drôle que vous me parliez de cette installation, parce qu'elle vient un peu de ma lecture de S.E.D. Kailosh, du livre Sidar Dirser, qui est un livre dans lequel c'est un campagnard qui vient vivre à la ville, à Lisbonne, et qui, il y a un paragraphe qui est resté surligné dans le livre que j'ai dans ma bibliothèque, où il parle finalement de ce manque terrible qu'il a de cette connexion avec la nature. Et ce paragraphe, moi, il m'est resté en tête toute ma vie. Et quand je suis arrivé à Paris, cette Kailosh m'est revenue en tête. À un moment donné, j'ai essayé de reproduire le cosmos, la Voie lactée dans mon salon en utilisant un modèle 3D et de projeter artificiellement comme ça le ciel en temps réel au-dessus de ma tête, mais tout simplement au plafond de mon salon. Et un jour, en visitant l'église Saint-Eustache, j'y allais pour exposer un autre projet. Et finalement, je vois cette forêt, ces piliers de pierre, et ces voûtes magnifiques. Et je me dis, non, je peux pas exposer ce que j'étais censé faire. Je vais transformer cette idée d'accès au cosmos et je vais en faire une proposition un peu différente. Et l'idée, c'était de permettre aux visiteurs d'envoyer des pensées dans la voûte céleste, en sachant que la voûte architecturale, elle, justement servait de réceptacle et de projection à cette voûte céleste. Et l'idée, c'était que chacun puisse, en un geste, j'enregistrais pas les mots, il s'agissait pas de collecter de la donnée, encore une fois, je cherche pas à tracer les gens, juste les gens devaient faire une petite expérience de pensée, relier des points, et ensuite des lasers utilisaient les piliers centraux comme des lanceurs de fusées, et ensuite les étoiles filantes partaient dans la voûte, et à la manière d'un cerveau, justement, elles allaient chercher leur leur destination finale et restaient là. Et on avait au-dessus de nos têtes, à 30 mètres, un bout de constellation, un bout de cosmos. Et les gens s'allongeaient par terre comme s'ils étaient justement, comme s'ils retrouvaient cette connexion à la nature en ville.
Alors, Philippe Vilgebois, il nous reste 3-4 minutes. Alors, vous avez des œuvres un peu partout. Hein. Bon, à Marseille, ça va être à partir du 19, etc., etc. Mais je vais revenir à quelque chose, parce que vous avez un travail qui fait partie de la Nantes du Musée national de l'histoire de l'immigration. Apparemment, ça a une histoire. Ça part des Gaulois réfractaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous.
Mais ça fait bien lien, effectivement, avec ce qui est présenté au Palais de la Porte Dorée. Il y a quelques années, je réagissais à l'expression Gaulois réfractaire, en soulignant le fait que, en fait, le réfractaire, il a aussi une définition, justement, puisqu'on parle de dictionnaire, il a aussi une définition physique qui décrit finalement sa capacité à retenir la chaleur. Je connais bien ça, puisque j'ai fait pas mal de chantiers avec mon papa, José, que je salue aussi. Et du coup, j'ai proposé à mon père, je lui ai dit, est-ce que tu veux bien, cette fois, être mon ouvrier à moi, mon assistant à moi, puisque je l'ai fait de nombreuses fois pour toi. Et on a réalisé ensemble une carte de France avec la Corse à côté, en briques réfractaires, pour justement contrer cette définition du Gaulois réfractaire, soi-disant réfractaire à tout changement, à toute solidarité nationale, qu'il faut faire des efforts, etc., etc. Le discours, on va dire, ambiant. Et moi, j'avais plutôt envie de parler de ce que je connais du Gaulois, en fait, c'est-à-dire sa capacité à se serrer les coudes, à dire non, à dire quand ça va pas, à défendre son bon droit et à être solidaire de ses amis qui traversent son pays ou qui s'y installent. Et donc, les Gaulois réfractaires, je l'ai repris et on en a fait une carte de France en briques réfractaires qui retient la chaleur. Et ce jour-là, une sociologue, une amie sociologue qui s'appelle Dana Diminescu, qui est d'origine roumaine, est venue voir cette œuvre et m'a proposé voilà de suivre de plus près ses travaux. Elle, c'est vraiment son domaine de recherche. Elle fait de la sociologie des migrants, si je puis dire, des migrants connectés en particulier. Et du coup, un jour, elle me dit, écoute, une partie de mes travaux vont être intégrés à la collection permanente du Musée de l'Immigration. Il y a un volet que je souhaiterais voir mis en scène d'une certaine façon, et du coup je l'ai accompagné là-dessus. Je lui ai fait une proposition et en fait c'est une installation interactive où on peut lire au creux de nos mains. En fait, nos mains aussi possèdent des lignes un peu comme des cahiers, et au creux de nos mains on peut lire en projection aussi les raisons pour lesquelles ces familles françaises ont accueilli des émigrés, des migrants, des réfugiés en France. Et donc voilà, c'est présenté depuis le 13 juin.
Oui, avec la nouvelle exposition.
Avec la nouvelle exposition permanente du Musée de l'Immigration.
Il faut le voir, bon, l'image c'est extraordinaire, deux mains ouvertes. Et ça c'est le travail de l'artiste. Multimédia, enfin. Philippe Vilgebois, obrigado por ter vindo. De maneira que deixamos aqui o convite para ajudarem a elaborar o fusionnaire.
Merci beaucoup, muito obrigado. J'espère qu'il y aura des frontuguais qui viendront alimenter la chose.
Bom, estamos aqui e depois vou-lhe pedir uma dedicácia. Tant qu'on parle de frontuguais. Dedicácia, Philippe, merci, bon vent. Et dans le Musée national de l'histoire de l'immigration et peut-être un peu plus tard dans le cadre d'une expo scientifique au Musée de l'Homme. Enfin, ça, on verra.
Et la Biennale de Paname aussi à Saint-Ouen, au pavillon de l'Arsenal, la Triennale Art Public à Ivry, à la Galerie Fernand Léger. Il y a pas mal d'actu en ce moment.
Donc, vous allez sur les réseaux sociaux, bon, je ne sais pas de quoi je parle maintenant. Enfin, Philippe Vilgebois, vous allez avoir tout ça. Et nous, on revient après 13h. À tout à l'heure.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Sou na hora de Passagem de Nível neste domingo, dia 8 de outubro, emissão com a difusão da noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Vamos ao teatro. Bom, ainda que para vermos esta peça, vamos ter que ir até Lyon a partir do dia 10 até o dia 14. Trata-se de Sable L'Empereur, As Areias do Imperador, uma encenação de Vítor de Oliveira, baseado num livro de Miyakoto. Vítor de Oliveira, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, boa tarde, obrigado por me terem convidado.
Ora, eu sei que está de escala em Paris, veio de Praga, vai para Lyon. Ora, falemos desta peça porque é uma maneira que o Vítor de Oliveira tem de, digamos, de voltar a escavar o passado comum entre Moçambique e Portugal.
Exatamente, porque, portanto, eu nasci em Moçambique, os meus pais igualmente, os meus avós é que eram... Pronto, os meus avós, os pais do meu pai e da minha mãe, portugueses, as minhas avós negras, moçambicanas, elas mesmas já mestiças, portanto, e para mim, desde já há algum tempo, que há uma vontade de voltar a trabalhar um bocadinho, portanto, dentro daquilo que eu faço, que é o teatro, com questões que ainda restam, ainda estão relativamente sem resposta em relação à relação de Portugal com as colónias, com o período da colonização, e hoje também em relação ao acolhimento do que se pode chamar de afrodescendentes. Portanto, todas essas questões, não diria que estão todas presentes, mas são algumas das questões que me levaram a querer trabalhar sobre o texto do Miyakoto. Portanto, eu como disse, eu cheguei ontem de Praga porque estive lá a apresentar um outro que eu faço, que se chama Limbo, e o Limbo é extremamente pessoal e tem muito a ver com a minha família, portanto, tem a ver com o exílio, digamos assim, e todas as questões que estavam inerentes ao fato de ser um mestiço, mulato, como se diz em português, e toda a relação entre os colonos e os colonizados, entre os colonizadores e os colonizados. Quando li o texto do Miyakoto, havia algo que me levava a ir mais longe ainda, porque como a ação decorre no fim do século XIX, mais exatamente em 1895, e está ligado à captura do imperador congolhano pelo oficial Sr. Muzinho de Albuquerque, tem a ver com toda, justamente essa relação entre os dois países, mas no meio dessa história, que é a história com o grande H, que é a história da colonização entre duas figuras importantes da história portuguesa e moçambicana, há uma história de amor entre um homem branco e uma mulher negra, entre um moçambicano, uma moçambicana e um português, e essa história de amor é que é, digamos assim, um fio condutor, o fio vermelho que liga tudo isso. E essa história de amor poderia ter sido, embora tenha sido um pouco antes, uma das histórias de um dos meus avós, porque o meu avô paterno foi para Moçambique justamente para a guerra de 1418, um pouco depois, e ficou por lá e conheceu a minha avó e teve maravilhosos filhos, entre eles o meu pai, e depois morreu por lá. Uma das personagens, que é o Germano de Melo, tem um bocado o mesmo tipo de vida. Portanto, há essa relação entre, não apenas dentro do livro do Miyakoto, entre a história com H e a ficção, e ao mesmo tempo a relação entre a história de, e a minha própria história pessoal.
Ora, Vítor de Oliveira, a ação do livro passa-se no século XVIII, mas finalmente hoje, em 2023, há muitas coisas que ainda estão por responder. É como quem diz, há certas coisas que ficaram, parece que se perpetuaram nas relações entre Portugal e Moçambique, entre os portugueses e moçambicanos, porque não, essas relações não são impunes, finalmente. Há algo que nos marcou para sempre?
Eu penso que sim, eu penso que há algo que eco, obviamente, de tudo isso, porque foi uma história, embora para muitos das pessoas a quem chamamos de retornados, embora para muitos deles a ferida, digamos, ainda esteja aberta, porque eles tenham a impressão que perderam tudo e que deram muita coisa que ficou por lá, mas a verdade é que hoje, em 2023, essa relação e essas feridas, digamos assim, eu penso que já deveriam, se não estarem completamente saradas, pelo menos estarem um pouco saradas, e tenho a impressão que ainda não estão, e tenho a impressão que por vezes é difícil, e embora tenha... isso não é uma impressão que constato, de há uns 10 anos mais ou menos para cá, em Portugal, há muito mais o diálogo em torno desses temas, desses assuntos, há uma palavra que é a palavra justamente dos afrodescendentes ou ou das pessoas como aqueles da minha família, portanto, que eram mestiços, mulatos e que foram para Portugal por causa da guerra civil que esteve ou em Moçambique ou em Angola, ou que foram para Portugal porque tinham escolhido guardar a nacionalidade portuguesa e foram expulsos, que foi o caso dos meus pais, por exemplo, mas... mesmo para essas pessoas há algo que ainda continua um bocado como uma ferida, porque foi difícil, porque foi complicado, porque nos anos seguintes era um bocado um assunto tabu, não se falava, e depois quando se começou a falar, começou-se a falar essencialmente a partir das experiências dos chamados retornados, ou a partir das experiências dos traumas dos soldados e portugueses, dos oficiais militares, dos militares portugueses que fizeram a guerra da África e que voltaram, portanto, isso continua ainda, há algo que ainda continua extremamente presente. Um exemplo muito simples, por exemplo, de que eu falo, aliás, no Limbo, é que em 2020, portanto, há apenas 3 anos atrás, um jovem, jovem, tinha 40 anos, relativamente jovem, ator português, mas de origem guineense, foi morto em Lisboa à tarde, em Chelas, por um ex-combatente combatente da guerra colonial. Uhum. Penso que deve ter ouvido falar.
Portanto, sim, abordámos esse problema, sim. Porque foi um ato racista, não é?
Absolutamente, e foi de alguém que durante alguns dias insultou e não sei o quê, e depois um dia, pronto, desfartou-se, foi a casa, pegou uma arma e chegou ali à rua e com 4 tiros matou um homem de 40 anos que tinha 3 filhos. E depois, quando chegou à esquadra, isso obviamente eu sei porque o li, quando chegou à esquadra, falou com o advogado, a primeira coisa que disse ao advogado foi: olha, estou na esquadra por ter matado um preto. Portanto, esse tipo de obviamente que é uma coisa isolada, não é, mas como é que alguém, portanto, que foi um ex-combatente da Guerra Colonial, ainda está ligado dessa maneira à África? Como é que as coisas não foram feitas e faladas e tratadas de maneira a que pudesse ter havido um apaziguamento ou algo que tenha que é necessário, porque, como disse, e muito bem, já estamos em 2023. Portanto, no próximo ano vamos festejar os 50 anos do 25 de Abril. Quero dizer, já é mais do que tempo, como diríamos, para que as coisas estejam um pouco mais apaziguadas e um pouco mais serenas.
Mas, Vítor de Oliveira, o problema é que há coisas que nunca foram debatidas, o balanço nunca foi feito, nunca fizemos nenhuma introspectiva, muito menos uma autocrítica, e aliás não é por acaso que atualmente há 11 deputados da extrema-direita no Parlamento. Mas, Vítor, vamos ter a ocasião mais tarde, e esperamos aqui convidá-lo para vir aqui até aos estúdios, porque vai estar na MC 90 em Bobinho, e volta lá, porque já lá esteve com uma peça, precisamente vai estar a partir do dia 27 de março, já lá iremos, mas para já dia 10, 11, 12, 13 e 14, precisamente no Celestin de Teatro em Lyon. Uma última pergunta, que peço uma resposta rápida, mas depois voltaremos ao assunto no mês de março. É extraordinário porque a peça, mesmo em Portugal, era em português e em chagana. É um símbolo para si, não é?
Sim, é extremamente importante. Foi a primeira vez, por exemplo, que no, teatro, no palco principal do Teatro Nacional de São João do Porto, atores moçambicanos representaram em Xangana. Xangana é uma das línguas mais faladas em Moçambique, há outras, mas é uma das línguas mais faladas em Moçambique, é a língua que é falada em Maputo, e que os atores moçambicanos possam interpretar naquela que é, de uma certa maneira, a língua materna, porque obviamente a língua oficial em Moçambique é o português, mas toda a gente fala português e uma outra língua que tem a ver com a região ou o clã, mas essencialmente com a região onde estão, e em Maputo, é o Xangana e o Ronga. E isso é hoje, em 2023, ainda acontece. Portanto, por exemplo, há duas atrizes que são atrizes novas, que falam extremamente bem Xangana, os que têm dois filhos pequenos, e falam com eles em Xangana, não falam com eles em português, falam com eles em Xangana. E depois o português, eles, os miúdos aprendem na escola, obviamente tudo o que tem a ver com a administração é em português, portanto, e isso era muito importante porque eu sei que durante o período colonial era proibido as pessoas falarem as chamadas ditas línguas nativas, e mesmo depois da independência também, justamente para a unificação do país, o primeiro presidente moçambicano, Samora Machel, também tentou fazer com que essas línguas não fossem muito faladas para evitar o que ele chamava de tribalismos. Portanto, havia houve durante muito tempo uma tentativa de tentar fazer com que o português fosse a única língua. E é verdade que o português é a língua oficial, mas toda a gente fala pelo menos mais uma língua. Todos os meus atores falam duas, três, quatro, há um deles falam cinco línguas. Isso é extremamente importante, mas tem a ver também com a história do Miyakoto, a história das areias do imperador, porque a história de uma personagem principal é uma jovem moçambicana que se chama Imani, que por ter feito a escola na escola de padres portugueses, fala português também, e então ela é utilizada como tradutora para o imperador Gongyan, que é o imperador que resistiu mais tempo contra os portugueses e foi por fim, finalmente, capturado pelo Mozinho de Albuquerque e as tropas portuguesas. Portanto, essa relação que ela tem entre as duas línguas, entre os dois países, é extremamente importante, e é extremamente importante para as imagens falarem em Xangana, porque, por exemplo, para mim nunca seria possível poder pôr a personagem que é o Gungunyan, que é o grande imperador da história de Moçambique, a falar português, porque ele não falava português. E foi importante. E isso também é possível porque há toda uma parte técnica que permite que haja a legendagem. E que parte da legendagem seja projetada na cenografia, portanto as pessoas não têm que estar sempre a olhar para cima, podem ver tudo no mesmo ângulo de visão, portanto em que vêm os atores e vêm as legendas ao lado. Portanto, há todo um progresso que houve em relação à utilização do vídeo que me permite poder fazer um espetáculo desta duração com legendas em português e em francês.
Vítor de Oliveira, obrigadíssimo, para já relembro as areias do Imperador a partir do dia 10 e do dia 14 em Lyon. Os nossos ouvintes que nos ouvem a partir de AB+, no teatro de Célestin, Teatro de Lyon, 4 Charles Durand, 69002 Lyon. E Vítor, obrigado, e fazemos já o convite para no mês de março, quando a peça vier aqui até o MC43, a Bobigny, que viesse aqui até aos estúdios, porque temos muita coisa para falar ainda.
Sim, com muito prazer, com muito prazer.
Muito obrigado, Vítor.
Muito obrigado.
Bom, on va quitter Lyon, maintenant on va jusqu'à Richebourg, effectivement, de l'autre côté, pourrais-je dire, on a le maire de Richebourg, Monsieur Jérôme Demoulier, bonjour et merci d'être en direct avec Radio Alpha.
Bonjour.
Alors, Monsieur le maire, ouf, c'est fait, c'est très important parce que ça, c'est au sujet du cimetière portugais de Richebourg, ça y est, c'est fait, l'UNESCO a classifié d'ailleurs 39 lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale en France et en Belgique, dont le cimetière portugais de Richebourg.
Oui, vous avez parfaitement raison, alors ouf, exactement, mais j'en reste pas là et je dirais... maintenant, il n'y a plus qu'un. Parce que c'est pas le tout d'avoir le label et de se reposer sur ses lauriers, c'est véritablement s'approprier cette opportunité. Aussi bien, alors, vous rappelez que c'est le Mémorial indien et le cimetière portugais qui ont été retenus et qui sont désormais classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc pour nous, c'est vraiment un gros coup de projecteur, je dirais, à l'échelle mondiale. C'est une énorme fierté. Et j'ai toujours tendance à répéter que ce label, c'est un petit peu comme les étoiles au Michelin. C'est pas le tout de l'avoir, c'est pas une fin en soi. C'est véritablement le défendre, de le préserver de manière à ne pas perdre ce label, puisqu'on peut effectivement, il y a tout un travail à faire pour que justement il y ait une véritable action, une énorme réflexion pour justement faire vivre ce label, le préserver.
Oui, mais en même temps, M. le maire, moi, je me rappelle, bon, je suis allé plusieurs fois chez vous et à la Couture aussi, et à un moment donné, le cimetière, on dirait qu'il était abandonné. C'est, et d'ailleurs, c'est une association, l'Union franco-portugaise de Tarik-Chebourg, qui a pris les choses en main. Oui. Bon, est-ce que la situation a évolué? Ça a changé? Le gouvernement portugais a mis du sien? Monsieur le maire, je demande votre opinion. Bon, vous êtes...
Ça évolue. Alors, ça évolue nous aurons des... Alors, ça va se faire en plusieurs temps. D'abord, en ce qui me concerne, c'est d'avoir, je dirais, comme je viens de vous dire, c'est effectivement, maintenant, on a un label. Maintenant, on a le, si je puis dire, ce label, qu'est-ce qu'on fait et comment on travaille. C'est tout ce travail-là. Et effectivement, vous évoquez le cimetière. Il y a plusieurs éléments... c'est de dire oui, ce cimetière, bah, c'est de le préserver, de l'entretenir, de l'embellir, et de manière à ce qu'il soit dans les, je dirais, conforme au cahier des charges, aux exigences de l'UNESCO. Et donc, oui, vous avez entièrement raison sur la préservation, mais ça va au-delà, je dirais, de la préservation du cimetière en lui-même, de l'entretien. Donc, c'est l'association franco-portugaise qui est chargée localement de tout cet entretien, de toute cette maintenance, et puis également de la préparation chaque année de la cérémonie commémorative de la bataille de la Lys. Mais je vais aller plus loin dans votre question, c'est que maintenant, on est dans c'est une autre dimension, et effectivement, il y a une grosse réflexion, et une réflexion qui doit aboutir sur une véritable action sur l'entretien de ce cimetière, effectivement.
Mais parallèlement, j'ai entendu parler, Monsieur le maire, qu'il y a tout un tas d'initiatives qui... Bon, on réfléchit à amener tout un tas d'initiatives, des visites études, parce que là, vraiment, on peut parler de la mémoire, on peut parler de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre, et on sait déjà que bon, que la génération actuelle, il y a plein de choses qui méconnaissent, bon, même la Shoah, tout un tas de trucs, et la Première Guerre, bon, c'était la première boucherie qu'on a eu en Europe, donc ça peut servir aussi d'un lieu d'éducation.
Exactement. C'est justement l'objectif de l'UNESCO, c'est de faire passer un message, c'est le devoir de mémoire. Donc c'est effectivement et l'actualité malheureusement revient un peu comme un boomerang. Hein. On a été des années à se dire plus jamais ça, et la paix est une évidence. Ben non, la paix n'est pas une évidence, et je l'ai rappelé à maintes reprises dans des cérémonies, la guerre est à notre porte, la guerre est à la porte de l'Europe, et la guerre est à quelques heures d'avion, et effectivement, c'est un travail sans fin, et ce sont des messages à faire passer à nos enfants, via des actions, via des événements, au-delà même de la commémoration chaque année, donc il y a un réel travail à faire, parce que demain, tout peut déclencher. Vous voyez l'actualité là en Israël, vous voyez la guerre en Ukraine. Voilà, il y a des endroits où ça peut, comme je vais être un petit peu grivois dans mon propos, mais ça peut péter à tout moment.
Oui, tout à fait.
Ce qu'on a connu il y a 105 ans, et là, ça peut revenir. Et donc, c'est véritablement un enjeu de faire passer ce message à nos enfants. Et justement, parallèlement à ça, c'est de mettre un renfort, un coup de turbo à la relation que nous entretenons avec les amis, les pays amis, le Portugal, l'Inde, la Grande-Bretagne. Donc, au-delà de ça, c'est le message, et puis c'est entretenir la relation et une relation d'amitié. Donc ça passe par l'os, la défense de ce label.
Alors, Monsieur le maire, il faut dire que Nord-Pas-de-Calais, ça a été une des régions les plus sacrifiées pendant la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, pas très loin, quand on prend l'autoroute, il y a le musée aussi de la Première Guerre. Sans oublier tout un tas de cimetières, justement, des combattants qui sont dus d'un peu partout. Vous avez cité l'Inde, l'Angleterre, il y a aussi l'Australie, et pas seulement. Et donc, justement, c'est-à-dire, cette mémoire, est-ce qu'il y a un lien entre tout ça et quelque chose qui bouge? Est-ce qu'au point de vue de l'éducation nationale, il y a un travail qui est fait? Parce que, bon, ça fait partie de notre histoire, bien qu'il y ait des gens qui disent que non. Et donc, ce travail est fait, je reviens à l'histoire de travail de mémoire, mais il y a ce lien, tout ça, avec l'éducation nationale ou pas?
Alors, l'éducation nationale, je vais peut-être vous décevoir, il y a tout un travail, et on n'a pas attendu d'avoir le label UNESCO pour travailler sur ce dossier-là. Il y a un travail qui est entrepris, et c'est moi qui anime ce dossier-là à l'échelle de l'Office de tourisme, qui est le tourisme de mémoire. Le tourisme de mémoire, comment il se décline? Il se décline le touriste lambda. Mais c'est aussi le tourisme d'entreprise, c'est le tourisme éducatif, quand vous avez pouvoir être en capacité d'accueillir une classe. Donc il y avait un véritable enjeu sur justement de raconter l'histoire, parce que comme vous l'avez rappelé, et moi-même je le découvre, moi je suis un enfant de Richebourg, mais je découvre moi-même l'histoire dans l'histoire, et avec ce tourisme de mémoire, il y a une histoire à raconter. Alors c'est une histoire qu'on va raconter à travers des combattants. Celui qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le soldat Milhaud. Et je me suis rendu d'ailleurs au mois d'avril à l'inauguration, en présence du président de la République, du musée de la maison natale du soldat Milhaud, en présence du président, où j'ai assisté, et c'était un point d'honneur pour moi d'être présent à cette inauguration. Mais localement, au travers de personnages, de soldats, c'est de raconter cette histoire, et puis de refaire ce parallèle. Et je rappelle toujours les 4 ans de guerre à Richebourg, c'est que Richebourg a été complètement rasé, a été complètement dévasté, et c'est au travers de soldats, au travers de certains épisodes, qu'on comprend mieux l'histoire, et notamment sur d'autres épisodes, sur les batailles de la Somme. Et pour compléter votre information, nous avons un projet aussi avec la Somme, le comité départemental touristique de la Somme, pour faire ce lien véritablement entre ces théâtres de guerre qui a eu lieu là-bas, et également la Belgique, puisque l'UNESCO s'est porté aussi par la Belgique, et nous sommes sur une ligne de front de la Somme jusqu'à Ypres, où nous avons une véritable histoire à raconter. Et un message à faire passer.
Alors, Monsieur le maire, justement, vous êtes allé voir la maison du soldat Milhaud, donc c'est à Mursa. Apparemment, bon, il y a une coopération qui peut se faire entre les deux villes, Richebourg et Mursa. Qu'est-ce qui est prévu?
Avec, c'est déjà engagé avec Mursa, avec mon ami Mario, le maire de Mursa. Donc l'idée, c'est d'avoir une coopération, un partenariat. Voir, alors on est, je vais dire, à l'état de fiançailles, et pourquoi pas un véritable mariage, un véritable partenariat. L'idée, bah oui, il y a ce lien qui est très fort entre nous. Alors, Richebourg et la couture, puisque la couture est également associée, puisqu'il y a le
monument.
Le monument, et d'ailleurs, on est associé naturellement depuis des années à l'occasion de cette journée de commémoration. Moursob, évidemment, via le soldat Milhaud. Et de vous préciser également que l'an dernier, nous avons inauguré le Jardin de la Paix en présence du petit-fils du soldat Milhaud et du maire de Moursob, Mario, qui était là présent pour justement inaugurer ce Jardin de la Paix et procéder à la plantation des arbres et de tout cet environnement qui constitue ce jardin de la paix. Donc nous, véritablement, on est engagé dans un programme d'action avec les arts et jardins, avec la région, sur un programme de jardin de la paix, un jardin de portugais qui a été inauguré l'an dernier, mais on poursuit, on va plus loin avec un jardin de la paix indien et britannique qui doit sortir de terre ici en début d'année.
Et d'ailleurs, bon, je voulais signaler aussi qu'Arras est jumelé avec Batalha, et là, on parle du Christ, un Christ des tranchées, c'est ça, monsieur le maire?
C'est ça. C'est le Christ des tranchées, donc qui a été rapporté de Neuf-Chapelle, la commune d'à côté. Et autre point un petit peu de nos actions, c'est qu'avec alors je salue Bruno Cavaco, le consul honoraire ici, qui fait tout un réel travail. C'est un petit peu la cheville ouvrière et notre sherpa. Mais véritablement, c'est d'avoir aussi ce groupe des maires dépositaires du devoir de mémoire pour justement travailler ça. Et je pense à mon ami Stéphane Pinto, le maire d'Ambleteuse, et le maire de Boulogne. On est à plusieurs. Et effectivement, il y a tout un travail également, puisqu'on est porteur d'un morceau d'histoire du Portugal. On a un petit peu un morceau de Portugal chez nous. Et véritablement, c'est d'avoir du poids, et puis justement pour faire aboutir nos projets, et puis aussi faire ce petit circuit, ce petit pèlerinage pour les Portugais qui viennent nous rendre visite, sur Arras, sur Richebourg, La Couture, Ambleteuse, Boulogne. Donc il y a véritablement des choses à voir, à découvrir, et puis découvrir la région, hein, tout simplement. On a aussi à nous faire connaître culturellement et sur le plan touristique.
Bon, votre plat pays. Où on est bien reçu, parce qu'on dit que les gens du Nord sont froids. Et moi, je dis, c'est tout à fait le contraire. Bon, les gens du Sud, des fois, ils devraient aller prendre des leçons dans le Nord. Monsieur le maire, je vous remercie. Alors, entre-temps, il y a déjà une date pour la célébration de la bataille de la Lys 2014. C'est le 13 et 14 avril. Vous êtes déjà au courant, je suppose.
Oui, alors je suis au courant. Mmh. Nous allons mettre en route, il y a des groupes de travail, des réunions qui vont s'organiser déjà la semaine prochaine, justement pour bien caler, bien organiser, comme on fait chaque année, la commémoration de cette bataille, qui est un temps fort. Et c'est vrai que normalement, effectivement, la date va être confirmée très très rapidement, mais effectivement, le week-end du 13 avril.
Alors, monsieur Jérôme Dumelier, merci. Je rappelle, vous êtes maire de Richebourg, et on parlait du fait que le cimetière portugais de Richebourg est désormais patrimoine mondial de l'humanité, l'UNESCO. Donc, on va essayer de suivre, voir un petit peu qu'est-ce que le gouvernement et la Ligue des combattants portugais vont faire pour améliorer le cimetière, parce qu'il faut respecter les 1831 soldats dont leurs tombes sont dans ce cimetière, je crois. Merci, monsieur le maire.
Merci à vous.
Merci. Bon dimanche. E a bientôt. E nós voltamos dentro de alguns instantes. Estamos na reta final de Passagem Nível neste domingo, dia 8 de outubro. Emissão Lembro, com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Segunda hora, começamos por falar de uma peça de teatro, As Areias do Imperador, que é baseada no livro de Miyakoto. Estávamos no século XIX. Depois passamos à Primeira Guerra Mundial, com o cemitério português de Richebourg, e agora vamos para a Segunda Guerra Mundial. Nem mais e nem menos, e connosco, para nos falar de uma série documental, temos a jornalista Lúcia Gonçalves. Lúcia Gonçalves, boa tarde e obrigado por estar direto com Paris.
Olá, boa tarde, obrigada e eu pelo vosso convite.
Ora, Vistos para a Vida, uma série documental dedicada a Aristides Sousa Mendes. Aristides Sousa Mendes, os nossos ouvintes conhecem, na medida em que é alguém que já acompanhamos praticamente desde o início, podia mesmo desde o início da Rádio Alfa, já, bom, isto foi em 1987, de maneira que não data de ontem, e precisamente pudemos ver que finalmente foi a reabilitação de Aristides Sousa Mendes, demorou anos depois do 25 de Abril. Mas, Lúcia, precisamente, aparentemente, foi por acaso que em 2013 descobriu Aristides Sousa Mendes. Pode-nos explicar em que contexto?
Pois foi, surgiu-me, eu trabalho na SIC, e na altura era coordenadora da redação do Porto, e portanto surgiu o convite da Sousa Mendes Foundation para acompanharmos uma coisa que eles organizam todos os anos, que é The Road to Freedom, que reconstitui basicamente o trajeto que os refugiados fizeram durante a Segunda Guerra Mundial, o êxodo e a obtenção de vistos que tiveram desde Bordeus até à entrada em Portugal na fronteira de Vilar Formoso. E na altura eu achei que realmente aquilo era uma reportagem muito interessante para se fazer até em estilo de diário, de viagem, e não consegui fazer a partir de Bordeus. Fomos apanhar esse trajeto, esse caminho de peregrinos, se assim podemos chamar, a partir de Bayonne, que foi outro consulado que Aristides era responsável e onde também foram emitidos vistos para a vida, como nós chamamos a esta série, vistos que permitiram a liberdade destes refugiados, e fizemos essa série de reportagens que entrou nos 9 à noite. Para mim foi uma descoberta também sobre Aristides. Eu pensei, se eu como jornalista, que em princípio, digamos, os jornalistas têm a obrigação de estar bem informados sobre a cultura do seu país e sobre o seu passado e a história, neste caso de Portugal, eu sabia muito pouco sobre Aristides Sousa Mendes, pensei que tinha a obrigação também de descobrir mais e dar mais a conhecer sobre Aristides. E portanto foi uma jornada de descoberta pessoal e de jornalística também, que achei no final dessas reportagens que ainda havia muito mais para contar. Foi revelador, foi tocante perceber que passados tantos anos, muitos destes refugiados levavam consigo os passaportes e documentos que os pais lhes deram, porque eles agora, quem ia nestas viagens, eram as crianças que quase 80 anos antes tinham fugido da Segunda Guerra Mundial e que agora estavam a regressar a estes locais. E, portanto, tinham memórias muito precisas, muito fortes, muito vívidas do que tinham passado. Mas os pais, que obviamente tinham vivido tudo com muito mais impacto, já tinham falecido, mas tinham transmitido quase com uma força de testemunho que nunca deve ser esquecido, tudo o que tinha acontecido. Essa experiência fez com que eu sempre achasse que isto era algo que devia ser mais explorado num documentário ou numa grande reportagem. E só quando, digamos, nós lançámos a plataforma de streaming Opto, achei que nós tínhamos aqui condições, e eu também estava com outras funções na relação mais liberta, digamos assim, de outros compromissos, para poder abraçar este... porque isto exigiu muita investigação.
Lúcia Gonçalves, aliás, foi um trabalho em equipa durante 3 anos, porque, bom, vocês visitaram 7 países, conseguiram ter a perto de 40 entrevistas, de maneira que, bom, isto levou-nos a, finalmente, quer dizer, é uma parte da história de Portugal e não só da história da Europa, mas também dos países onde estão os descendentes daqueles que obtiveram os vistos da parte da Justiça Sousa Mendes.
Sim, sim, isto foi uma aventura e ao mesmo tempo uma grande ansiedade este projeto, porque nós começamos a gravar em fevereiro de 2020, no Luxemburgo, e entrevistámos lá vários refugiados, até entrevistámos pela primeira vez o grande Hugues Henry, falou sobre o impacto que o Aristides Sousa Mendes teve na liberdade de vários, de centenas de refugiados, se não milhares de refugiados no Luxemburgo, inclusive da família grande ducal luxemburguesa. E regressamos a Portugal, e quando regressamos a Portugal é o shutdown total, global, devido à pandemia. Nós só conseguimos retomar em outubro de 2021, e fomos à França, fomos aos Estados Unidos, fomos a Canadá, a Espanha. O nosso colega Henrique Zimmermann também recolheu também imagens que nós precisávamos em Israel. Portanto, foi realmente uma epopeia. E depois há uma guerra na Europa, isto é importante as pessoas perceberem, porque houve decisões até que tivemos de tomar a nível de edição, porque rebenta uma guerra na Europa, que estamos a viver agora, entre a Ucrânia e a Rússia, e eu estou a ouvir, estávamos em França, na estrada, a fazer imagens, e eu estava a olhar já para... decisões que tínhamos tomado a nível de entrevista, tínhamos muitas entrevistas, quase 40 entrevistas, e entrevistas longas, e ouço Zelensky dizer que os homens a partir dos entre os 18 anos e os 60 anos não podiam abandonar a Ucrânia. E lembrava-me de um depoimento do Jorge Elft, que ele e a sua família tinham fugido de França com vistos de Sousa Mendes e são barrados na fronteira entre a França e a Espanha porque nessa altura o general de Gaulle também decreta no mesmo sentido que os homens naquela altura, devido à esperança média de vida era diferente, na altura entre os, a partir dos 17 anos não podiam abandonar França. E isso era uma declaração de depoimento que por razões várias eu achei que pronto, não era importante, mas perante a guerra que estava agora na Europa eu achei isto tem uma atualidade brutal e tudo isto que estamos a fazer não só pela própria história do Aristides Sousa Mendes, tudo isto agora volta a ser atual, ou seja, o passado não é um caso encerrado. Nós temos muito mais para dizer e para revelar, e de facto, se há coisa que nós podemos aprender com o Aristides Sousa Mendes, é que temos de aprender com a sua atitude para que erros do passado não voltem a ser repetidos.
É com efeito, mas voltando a 1940, era Pétain que estava no poder, enquanto que o de Gaulle já estava em Londres. Aliás, é praticamente a mesma data em que o de Gaulle lança o apelo e que o Aristides de Sousa Mendes, que pagou caro porque acabou da miséria, estou a dizer, só foi reabilitado décadas depois. Mas esse propósito, algo que eu encontrei é que a Unesco, o Comitê Consultivo Internacional da Unesco, do Programa de Memória do Mundo, pois, inscreveu, entre outros bens, o registro da memória, o livro de registro de vistos concedidos pelo Aristides de Sousa Mendes. Não está lá tudo, de maneira que há documentos que circulam. Ora, mas precisamente nesses contactos, nós sabemos que houve muitos intelectuais, e não só que, bom, banqueiros e tudo, que tiveram acesso ao visto de Aristides de Sousa Mendes, mas finalmente, eu não sei que conclusões que a Lúcia Gonçalves pôde tirar desta série documental. São 5 episódios, há que o dizer, não é?
Sim, são 5 episódios. Uhum. Nós, obviamente, que estivemos no Instituto Diplomático e vimos o livro de registros, uhum. Mas obviamente ouvimos quem estudou uhum. com profundidade esta temática e o livro de registros. De encontro com o cruzamento de dados e de informações, esta coisa dos números, falava-se muito nos 30 mil vistos, o que os historiadores e os investigadores podem dizer, sem sombra de dúvida, é que ele emitiu entre 10 a 15 mil vistos. Agora, nós sabemos que o número real foi muito superior, tudo aponta nesse sentido. Ainda, isto só para dar um exemplo, ainda há 15 dias mais ou menos, eu estive em Cabanas de Viriato, exatamente a fazer uma peça de lançamento para a estreia desta série documental que estreou na SIC, no Jornal da Noite, a semana passada, e o Presidente da Câmara, de Carregal do Sal, disse-me que houve uma senhora que contactou a Câmara que a arrumar os pertences do pai, que tinha falecido há pouco tempo, descobriu um baú, num sótão, e dentro desse baú estavam lá, entre outras coisas, um passaporte com um visto emitido por Sousa Mendes, e o pai nunca lhe tinha dito nada, ou porque não era uma história que ele não queria contar, porque nem toda a gente lida com os fantasmas do passado da mesma maneira, ou porque não achou aquilo importante, e ela agora está a tentar saber a história da sua família. E estas situações vão acontecendo com regularidade. Por exemplo, nós tivemos uma surpresa interessante, que foi quando quando nós estávamos a pedir a entrevista ao secretário-geral da ONU, António Guterres, fui surpreendida pelo seu assessor de imprensa, o Stéphane Dujarric, que disse que ia fazer todos os esforços para nós conseguirmos essa entrevista, porque ele próprio era descendente de uma pessoa que foi salva por Aristides Sousa Mendes. Uhum. Que é incrível, pois acabamos por entrevistar a sua mãe, que fugiu de França, ela e a sua família, com visto de Sousa Mendes, e depois eu pedi, também entrevistei o Stéphane Dujarric, porque não deixa de ser uma ironia do destino, que um descendente de uma refugiada que foi salva por estes isolamentos esteja hoje a trabalhar nas Nações Unidas a ajudar de alguma maneira outros refugiados. Isto é uma árvore, uma linha invisível que percorre aqui tudo isto que eu acho extraordinário. Portanto, sim, aquele livro é um livro precioso. Muitas das famílias, quando percorrem esta trajetória que eu disse, desde Bordeus até entrar em Portugal, muitas terminam em Lisboa e acercam-se do livro, e o livro para eles é algo sagrado, são momentos de muita emoção, porque para eles é algo realmente que representa quase uma árvore da vida, um livro da vida, porque passaram por muita dor, foram momentos muito difíceis, de bombardeamentos, de fuga, que nós não conseguimos imaginar, parece que já foi muito longe, mas hoje temos na Europa situações semelhantes, não só na Europa, mas no mundo, não é? E parece que aquilo está tudo muito presente, porque eles, de facto, perpetuam estes momentos todos, de geração em geração. E mesmo os mais novos, vão poder ver isso no último episódio, mesmo os mais novos, que têm hoje 18, 20 anos, conhecem a história dos seus amantes e sabem que não existiriam hoje se não houvesse um homem que abdicou de tudo.
Que disse não, que desobedeceu, não é?
Sim, que desobedeceu e que pagou um elevado preço por isso. Porque perante uma decisão que ele não concordou, ele seguiu a sua consciência. E nós ouvimos o professor da História do Holocausto da Academia do West Point, que acho que é muito pertinente o que ele diz. Ele recorre ao exemplo de Sousa Mendes, aos futuras, nas aulas que dá na Academia do West Point, futuros altos quadros militares dos Estados Unidos, para lhes dizer que vocês um dia vão ser também confrontados, podem ser também confrontados com situações limite em que poderão não entender, não compreender, não concordar com aquela ordem, e o que é que vocês vão fazer? Vão ouvir a vossa consciência como homem ou vão acatar aquela ordem? Qual é a vossa? Todos nós temos a nossa bússola moral, mas todos, nós jornalistas, políticos, funcionários públicos, professores, médicos, todos nós estamos perante situações no nosso cotidiano, seja uma na vida, em que temos de tomar decisões difíceis e ouvir a nossa bússola moral. E isso hoje em dia é mais importante.
Mais do que
e
nunca.
Acho que mais nunca. Por isso é que eu acho que esta história de Sousa Mendes acho que o Sousa Mendes devia ser falado nas aulas, nas escolas, independentemente do país e do credo.
A Lúcia Gonçalves lembra 5 episódios na OptoSIC. Qual é o acesso? Podemos ter acesso via streaming?
Sim, funciona como a Netflix, HBO Max, a Amazon, é uma subscrever durante o mês, se quiserem, desistir, podem ficar o tempo que quiserem. Os 5 episódios já estão todos disponíveis na Opto, ou ver através da SIC Internacional, acompanhar no Jornal da Noite, está a ser emitido todas as quartas-feiras, episódios e pronto. E que partilhassem, e que mais do que nunca, como eu disse, o exemplo de Sousa Mendes está vivo, está atual. E a mensagem é muito forte, não a devemos esquecer, e de novas gerações.
Lúcia Gonçalves, pelo trabalho, e obrigado igualmente a toda a equipa, um trabalho de 3 anos. Lembrou vistos para a vida da OptoSIC, nem mais nem menos. Lúcia, muito obrigado e boa continuação aí. Obrigado.
Obrigado.
E do meu lado, obrigado igualmente ao Manuel Xande, que está do outro lado, como se costuma dizer. Obrigado aos nossos ouvintes que nos seguiram ou não. E esperamos estar aqui no próximo domingo. E de qualquer maneira, como diz o outro, mais de 100. Bom, não, a canção eram mais de 100. Ele e vem José Mário Branco dentro de alguns instantes. E a propósito, ainda tem a ver com muita coisa, mas isto tem a ver com o 25 de Abril também. No próximo sábado, dia 14 de Outubro, entre as 16 e as 19 horas, na Livraria Portuguesa e Brasiliana, em Paris 5, vai ser apresentado uma banda desenhada de Edgar, de Mathieu Sapin. Diz respeito a Portugal e aos portugueses, e provavelmente vai lá estar igualmente o historiador Yves Leonard, que vai apresentar o seu último trabalho, Lumière d'Avril, Portugal, 1974. E há que referir que em 1974, José Maria Branco foi para Portugal logo após o 25 de Abril.
Desafiou ordens para salvar vidas durante a Segunda Guerra Mundial.
Teve a coragem de não cumprir uma ordem errada, e nós devemos homenageá-lo por isso.
Do Canadá a Israel. Os vistos de Aristides Sousa Mendes criaram uma família do tamanho do mundo.
Ele, a certa altura, é perdido por 100, perdido por 1000 e passa.
Next.
He means to me everything. My life, my children, my grandchildren and great-grandson.
A história do cônsul que salvou milhares de judeus e acabou na miséria. Vistos para a Vida, brevemente, no Jornal da Noite.
Fazem por menos, tornam-se fãs, vão por mim que eu vivi. Como é que um freguês de uma freguesia qualquer vê o seu destino fazer o pino sem saber ler nem escrever? Homem avisado, sempre ouviu alguém dizer: cada naufrágio é um presságio do que vai acontecer.